Radio Murmure.
Le bruit de fond des campagnes.
Radio Murmure.
On monte le son.
Quand on les a vus arriver, on n'a pas cru qu'ils passeraient l'hiver.
J'ai mis 5 ans pour trouver une terre. Au début, on m'a prêté un terrain.
C'est vrai que monter un projet comme ça, c'était osé, mais ça a marché.
Ça nous a un peu bousculé au début, quand ils sont arrivés. Mais c'est pas si mal qu'ils soient là.
On est 8 à habiter sur ce lieu et on a acheté ça ensemble.
C'est comme ça que tout a commencé.
Voilà 3 ans qu'Olivier a quitté sa Champagne natale pour le plateau de Mille Vaches. Cet ancien ingénieur du secteur automobile a tenté le pari de l'aventure collective avec un groupe de copains. Leur point commun, tous ingénieurs, tous lassés par leur métier et par leur lieu de vie. Ils ont donc imaginé un projet ensemble à la campagne de préférence. Après une bonne dose de réflexion et de recherche, ils ont élu domicile à Feltin, dans la Creuse. C'est là qu'Olivier a ouvert une ressourcerie court-circuit.
Alors notre projet collectif, c'était... Ça se limitait, on va dire, à se lancer ensemble, faire notre trou dans un... sur un nouveau territoire à la campagne et vivre à plusieurs. En fait, on n'a jamais eu l'ambition de travailler ensemble. Il se trouve que je suis le seul de la bande de départ à être dans la ressourcerie. Moi, personnellement, en fait, j'ai travaillé un petit peu dans l'industrie automobile. Ça m'a... j'ai pas trouvé mon compte, même plus vite que ce que j'aurais imaginé. Et du coup, j'ai un peu voyagé. Et après, j'ai cherché qu'est-ce que je pouvais faire dans la vie. Et j'ai rencontré une ressourcerie à Beauvais, les ateliers de la Bergerette, qui est la première ressourcerie qui s'est faite en France. Et le métier m'a vraiment, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que il y a à la fois de la collecte, de la manutention, il y a aussi un aspect de vente, relation avec les gens, et puis aussi tout un côté de sensibilisation à l'environnement qui donne du sens au reste de l'activité. Et la cerise sur le gâteau, c'est que il fonctionne en autogestion. Donc du coup, c'est un truc qui m'attirait beaucoup aussi. Je travaillais dans une grosse boîte où j'avais l'impression d'être un hamster dans une roue à faire tourner un truc qui m'échappe et qui n'a pas forcément de sens, où mon patron, je ne le connais pas, lui, il me connaît encore moins. Et du coup, le côté autogestion où on a vraiment prise sur l'activité et de participer vraiment aux décisions, pour moi, c'était j'avais vraiment envie de travailler dans ce cadre-là, quoi.
Avant de monter la ressourcerie à Feltin, Olivier a profité de l'expérience d'un lieu similaire, le monde à l'envers.
C'est vrai que le fait qu'il y ait le monde à l'envers, donc qu'il y ait une ressourcerie qui est déjà en activité depuis une dizaine d'années dans la région, personnellement, moi, ça m'avait beaucoup motivé aussi pour venir sur le plateau de Mille Vaches. Alors il se trouve qu'au moment où on est arrivé, le monde à l'envers, il ne pouvait pas vraiment embaucher, l'équipe était déjà au complet. Mais il y avait toujours l'idée pour eux d'essaimer sur un territoire voisin. Et puis du coup, moi, ça me tentait bien de me lancer dans l'aventure de créer quelque chose qui n'existe pas à partir de rien, quoi. Et j'y ai quand même travaillé. Au début, j'ai fait un peu de bénévolat, une immersion, pour vérifier que ça me plaisait bien, parce que j'avais fait une visite d'une heure aux ateliers de la Bergerette, mais après, il faut mettre les mains dedans pour vérifier. Et du coup, ça a été une super occasion de passer 6 mois au monde à l'envers, vraiment immergé dans l'activité, voir un peu les tenants aboutissants, avoir aussi une réalité de l'activité, du modèle économique, des contraintes, parce que quand on fait une ressourcerie, on a envie de récupérer le maximum de choses, on a envie de tout retaper, et puis en fait, on se rend compte qu'on est pas mal réduit à faire de la gestion de flux, c'est un truc qui peut être décevant aussi. Et en parallèle, quand j'étais au monde à l'envers, il y avait le projet sur Feltin qui commençait à prendre forme, et par le bouche à oreille, c'est là où on a commencé à rassembler un petit peu de monde pour lancer le projet ici et de fil en aiguille de constituer une équipe. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes permanentes. Et l'autogestion, c'est quelque chose qui faisait partie du projet dès le départ. Donc c'était l'idée de travailler de manière coopérative, horizontale et du coup sans hiérarchie. Du coup, au début, c'était une envie que j'avais moi tout seul de me lancer dans un projet collectif. Donc assez rapidement, il fallait, en même temps que le projet avançait avec les partenaires, trouver une équipe, motiver des personnes. Et ça a pris corps petit à petit. Et avec une difficulté au fur et à mesure d'être un puis deux, et puis après 3-4, et donc du coup de repasser un peu le portage du projet, histoire qu'il n'y ait pas un ou deux chefs de fait, parce qu'on est là depuis le début.
Dans la boutique de la ressourcerie, des objets d'occasion attendent patiemment qu'un acquéreur se présente. Le bénéfice des ventes sert à rémunérer les 3 emplois aidés nécessaires au bon fonctionnement de l'association.
Alors qu'est-ce qu'on vend ? On vend de la vaisselle, des livres, des jouets, des meubles, des bibelots, de l'électroménager, un peu de matériaux quand on en voit passer. On vend aussi bien des objets anciens que des objets plutôt récents, des choses plutôt vraiment pour resservir de par leur fonction utilitaire ou des choses plutôt pour décoration, pour collectionneur, donc il y a un peu de tout. Les prix, c'est super difficile parce que chaque objet est différent et en fait du coup c'est aussi à qui on veut le vendre et pourquoi on veut le vendre. C'est-à-dire que sur tous les objets, on va dire un peu de brocante, toute collection, on va essayer de pas mettre des prix trop bas parce que du coup c'est ça aussi qui permet de faire tourner l'association économiquement. Et après, on essaye de mettre des prix plutôt bas pour tout ce qui va être utilitaire ou alors des choses dont on a des grosses quantités aussi parce que le but, c'est qu'il en soit réutilisé un maximum. Après, on n'est pas des magiciens, on ne va pas changer à nous. Enfin, on est juste à la sortie de tout ce qui est, enfin, de la société de consommation et du coup, on peut pas tout remettre dans le circuit non plus. En fait, on peut revendre ce qui est revendable et pas plus. Curieusement, il y a peut-être, c'est une réflexion qu'on se faisait, des gens qui seraient vraiment dans le manque, on n'en voit peut-être pas tant que ça non plus, peut-être parce que le lieu n'est pas assez identifié, peut-être parce qu'on ressemble encore trop à une brocante, et voilà, on se demandait comment est-ce qu'on pourrait communiquer là-dessus, peut-être auprès des assistantes sociaux ou dans ces milieux-là, et sinon on se disait aussi les étudiants, parce qu'à Feltin il y a le lycée des métiers du bâtiment, où il y a à peu près 600-700 étudiants, souvent qui sont de passage et qui ne s'impliquent pas forcément dans la vie locale, et donc du coup, on ne les touche pas vraiment par nos activités, mais on se dit qu'en fait, un étudiant, quand il cherche à se meubler ou à s'équiper en début d'année avec de la vaisselle, ben, en fait, il pourra avoir pas mal de choses à très bas prix, et du coup, ce serait intéressant qu'on arrive à communiquer là-dessus. Qu'on ait peut-être plus cette fonction sociale au travers de la boutique. Après, c'est pas l'objectif principal que de rendre la consommation super accessible. Enfin, notre objectif, c'est quand même la sensibilisation. Et du coup, ça implique aussi de faire tourner la boutique économiquement. Et donc, du coup, on ne veut pas non plus mettre toute l'énergie à faire que de la collecte-revente parce que ce n'est pas de ça dont on a envie non plus. C'est une partie du projet, on va dire.
Comment vous faites pour payer les salaires ?
Aujourd'hui, on a sur les 3 emplois qu'on a, ils sont tous les 3 aidés. Il y en a un, c'est un emploi associatif de la région, donc qui est aidé sur 5 ans aux 3 quarts, région plus conseil général. Et après, c'est 2 CAECUI qui sont aidés, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais en gros, on va dire c'est une bonne moitié. Ils sont aidés sur 20 heures et les deux personnes sont plutôt à 26 heures. Par contre, ces postes-là, ils sont pérennisés au fur et à mesure. Enfin, au fur et à mesure que les aides s'arrêtent, les postes vont rester. Donc il y a un enjeu pour la structure à arriver à pouvoir faire vivre des postes salariés dont la plupart ne seront pas en emploi aidé à terme. Du coup, la principale source de recettes, c'est la boutique. Et puis après, il y a les prestations, donc les encombrants avec la collectivité. Et on pense déjà à aller voir des collectivités voisines aussi pour faire des encombrants, pour augmenter aussi le volume des prestations. Et un petit peu l'animation, sensibilisation, sachant qu'on a une petite enveloppe de l'ADEME et de l'ADREAL. Donc l'ADREAL, c'est en lien avec la région. Mais c'est plus sous forme de subvention pour faire quelques programmes. Et après, sinon, c'est les structures qui font appel à nous, qui vont nous subventionner ponctuellement ou sur un programme. Mais au niveau économique, ça représente vraiment une toute petite part de l'activité, en fait. Voilà, et après, il y avait l'idée aussi peut-être de se lancer dans d'autres choses, comme gérer une déchetterie, pourquoi pas, ou des activités comme ça qui peuvent être complémentaires. Mais il faut aussi qu'il y ait l'opportunité localement. On ne va pas faire ça à tout prix non plus.
Du coup, si les contrats aidés ne sont plus aidés, il va falloir sortir beaucoup plus d'argent. Du coup, est-ce que ça risque pas d'être contradictoire avec le fait que c'est pas la vente qui est mise avant tout en... Parce qu'à un moment donné, ça risque pas d'être compliqué.
Aujourd'hui, de toute façon, c'est déjà le cas. C'est déjà la vente qui fait la plus grosse partie du chiffre d'affaires de l'association, en fait. Et c'est vrai que c'est un peu paradoxal parce que c'est le temps qu'on passe en vente est quand même assez faible. On n'ouvre que 4 demi-journées par semaine. Et effectivement, c'est ce que je disais, c'est pas notre objectif premier. Après, c'est aussi quand même la porte d'entrée la plus évidente pour beaucoup de gens par la boutique. Après, nous rencontrer, se rendre compte qu'il y a une problématique des déchets qui est quand même présente ici. Donc, c'est aussi la boutique peut aussi être un outil de sensibilisation. Donc, on ne le néglige pas non plus. Mais c'est vrai qu'au niveau économique, ça tient une part très importante. C'est pour ça qu'à terme, on a envie de réfléchir aussi à d'autres sources de financement.
Fonctionner, la ressourcerie a effectivement besoin de vendre. Mais le projet va bien au-delà. Olivier et toute l'équipe mènent en effet un travail de terrain autour de la gestion des déchets et de la question de la consommation. Des problématiques qui ont su attirer l'attention des pouvoirs publics locaux.
En gros, l'idée d'une ressourcerie, c'est de récupérer des déchets, des choses que les gens abandonnent pour les remettre dans le circuit. Un petit peu comme Emmaüs, on va dire. La différence, c'est que y a tout un volet de sensibilisation à l'environnement. C'est-à-dire que toute cette activité de récupération, de remise en état et de revente, elle prend aussi du sens à travers la sensibilisation qui se fait dans les écoles ou auprès du grand public sur des stands, ou alors aussi au travers de l'activité, par le contact qu'on a avec les gens pendant les collectes d'encombrants, les débarras, à la déchetterie. Ou en boutique aussi, on essaye, ça ressemble un petit peu à une brocante, mais on essaye quand même de laisser des indices qui font qu'on n'est pas que dans une brocante. Donc, par exemple, on essaie de faire des dernières stations avant déchetterie pour faire prendre conscience que tout ce qui ne sera pas vendu va partir à la poubelle. On n'incite pas pour autant à la consommation, mais du coup, on essaie de rendre ça présent en boutique en fait. Pour monter le projet, on a pris beaucoup de temps, on a eu toute une phase d'étude pour aller rencontrer. Tous les partenaires locaux, donc il y a forcément la mairie qui accueille parce qu'on est une association, parce que ça va créer des emplois, il y a la communauté de communes pour les déchets, après il y a le conseil général qui est aussi compétent pour les déchets, la région pour l'économie, le parc naturel régional pour tout ce qui va être sensibilisation. Et on a des programmes avec les scolaires, donc ça va être maternelle, primaire, collège, aussi le centre de loisirs de Feltin. Et on travaille beaucoup aussi avec l'Institut médico-éducatif de Feltin. Depuis le début, il y a 3 ou 4 jeunes qui viennent tous les mercredis après-midi pour faire une activité avec nous. Souvent, ça va être remplir le camion pour aller vider des choses à la déchetterie, ou alors faire du démantèlement, faire un peu de bricolage dans l'atelier électrique. Donc ça, il y a un contact très régulier avec quelques jeunes. Et puis, on fait quelques animations aussi. Ils ont un atelier de tri papier-carton, et donc du coup on essaye de trouver des animations en lien avec ça. Par exemple faire du collage, ou alors découper les fenêtres des enveloppes pour après les coudre et faire des luminaires. Et là, avec l'Institut médico-éducatif, on se lance sur un projet de compostage. En fait, ils nous ont sollicité pour composter tous les déchets organiques qu'ils peuvent produire sur le site avec la cantine, les internats. Et donc, du coup, on va faire une formation demain, former les jeunes à qu'est-ce que c'est que du compost, qu'est-ce qu'on met dans le compost, qu'est-ce qu'on n'y met pas et comment ça se transforme après. Et donc, du coup, il y a tout un objectif pédagogique derrière, parce qu'il y a à la fois le fait de repérer qu'est-ce qui va dedans ou pas, et puis après de suivre l'évolution au fil du temps, et ça peut être quelque chose de très intéressant. Donc là, l'idée, c'est qu'ils commencent, le compost va se faire pendant l'été, à la rentrée, on reviendra, on tamisera avec eux pour regarder un peu le terreau obtenu, d'autant qu'ils ont tout un atelier aussi espace vert, où ils achètent du terreau, donc là, ils pourront aussi utiliser directement le produit de leur travail.
Dès le début, Olivier et son projet de ressourcerie ont donc reçu un accueil favorable de la part des institutions. Restait encore à susciter l'intérêt du public pour faire de la ressourcerie un vrai projet de territoire.
Par rapport aux partenaires institutionnels et aux élus, ça a été assez gagné, entre guillemets, assez rapidement, parce qu'on est arrivé avec l'exemple du monde à l'envers qui fonctionne en fait depuis 10 ans avec des postes salariés, donc qui est économiquement viable. Et du coup, on est arrivé en disant qu'on voulait dupliquer cette expérience, donc a priori il n'y avait pas énormément de... Enfin, a priori ça allait marcher. C'est peut-être plus... l'évolution qu'on peut voir, c'est peut-être plus par rapport au... comment peuvent nous voir les gens localement. Alors les copains, c'était gagné. Mais par exemple... des voisins à côté, on avait des échos, parce qu'au début on avait la boutique avec la vitrine, mais on ne l'avait pas encore ouverte. En fait, il y avait un peu de bazar, c'était à moitié un bureau, on avait essayé d'exposer un peu des objets en vitrine, mais c'était peut-être pas très, très clair. On avait eu des échos comme ça, ils se demandaient, mais qu'est-ce que c'est que cette association à la con ? Il y avait peut-être presque un regard un peu hostile aussi, enfin de méfiance en tout cas. Et puis aujourd'hui on discute, là on va changer de boutique, on se dit ah, on va vous regretter parce que c'est bien quand même qu'il y ait plus de monde dans le bas de la rue. Donc voilà, il suffit d'être patient et en fait du coup il y a on sent le regard qui change aussi. Donc ça c'est super appréciable. Du coup on essaye de relayer un peu les initiatives qui se font sur le territoire, même si on n'est pas forcément partie prenante, ou en tout cas à titre de la ressourcerie. Après individuellement... Il y a par exemple Bertrand qui est dans la ressourcerie. Lui, il est très moteur sur la création d'un nouveau groupement d'achat dans le coin. Sur les monnaies locales, moi, ça m'intéresse a priori. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps ou d'énergie à y consacrer, mais je pense que si la ressourcerie se met pas dans la monnaie locale, qui s'y met ? Donc c'est évident qu'il faut qu'on y participe. Je ne sais pas du coup à quel degré. Voilà. Et après, effectivement, je pense qu'on est repéré aussi... par les gens qui reviennent l'été ou qui sont de passage, ou des habitués qui vont conseiller leurs amis quand ils sont de passage, ils viennent en boutique, je viens de la part d'un tel, et voilà. Après, c'est difficile d'évaluer dans quelle mesure on arrive à sortir d'un cercle de gens déjà plus ou moins convaincus ou au moins ouverts, et quel degré de méfiance il reste aussi par rapport à nous, parce qu'on reste avec une activité atypique, un fonctionnement atypique. Ça nous est quelquefois un peu reproché en filigrane, c'est pas très lisible pour les gens de l'extérieur, mais c'est qui le chef, c'est qui est responsable, des gens qui trouvent que c'est pas normal, donc c'est pas évident, et sans doute qu'il y en aura toujours, donc on... Enfin voilà, après on cherche pas forcément à travailler là-dessus, on essaie d'être clair et honnête dans ce qu'on fait, et puis après on voit, mais globalement l'accueil est quand même plutôt sympa, voilà.
Radio Murmure, une émission réalisée par Audrey Barat pour Radio Sainte-Afrique, à l'initiative du réseau des CREFAD, financée par la DATAR Massif Central et les régions Auvergne, Limousin, Rhône-Alpes et Bourgogne.